RMC, l'After-foot, Florent Gautreau.
Bonsoir à tous, bonsoir à tous. L'After est avec vous jusqu'à 23h ce soir. Vous avez l'habitude maintenant de nos horaires d'été, 21h, 23h. Il y aura d'ailleurs des afters un peu plus longs, ou plutôt jusqu'à minuit, avec les matchs de Coupe d'Europe qui arrivent la semaine prochaine, mercredi et jeudi prochain. On va évidemment suivre les matchs en intégralité et puis le débrief derrière dans l'After. François Manardeau est là ce soir. Salut François.
Ciao, salut les amis. Jonathan
McCarty est là. Tu l'as dit, Jonathan, salut. Je vous rappelle que vous êtes en simultané hein, sur RMC et sur BFM Sport. Et qu'il y a le replay également sur rmcsport.fr dès la fin de l'émission. Au programme ce soir, le Mercato Show comme tous les soirs avec Saber Desfarges, toutes les infos, et on va revenir sur l'info ou un tox Neymar du côté du Paris Saint-Germain. Notre tour de France, des clubs, on va aller du côté de Nantes ce soir. Supporter nantais, vous pouvez nous appeler au 32-16. Les avis tranchés de l'after, je vous parlais de l'équipe de France féminine qui joue son premier match à l'Euro ce soir, 0-0 après 14 minutes de jeu entre la France et l'Islande. François, lui, va nous parler de cette Ligue 1 qui se profile et qui est plutôt alléchante. Et puis Jonathan, lui, va nous emmener du côté de l'Espagne pour nous parler d'une autre équipe alléchante, le FC Séville. Plus notre invité ce soir, l'avocat Thierry Grand-Turco, qui va nous parler de la DNCG. On va en débattre avec lui. DNCG dont il conteste l'indépendance, s'appuyant cela sur un arrêt récent du Conseil d'État. Le quiz, vous en avez l'habitude. Vous pouvez vous inscrire au 32-16 pour jouer soit avec Jonathan, soit avec François. Le je m'en fous pas également. Le 32-16 pour débattre également avec nous, avec le hashtag RMC Live. Et dans quelques instants, donc, on ira du côté de Saber Desfarges pour avoir les dernières infos mercato. Mais je vous l'ai dit, il y a le foot et il y a ce France-Islande que suit pour nous Arnaud Souk. Je le disais, on est à la fin du premier quart d'heure. Arnaud est toujours 0-0. Arnaud Souk est-il avec nous? Il n'est pas là. Et dans quelques instants, il sera avec nous. Allez, on a regardé le début du match. C'est pas un grand début de match, hein, en tout cas de la part des Françaises. On rappelle qu'elles ont une poule relativement simple, François.
Autriche, Suisse, Islande.
Et que normalement,
c'est le premier match le plus important.
Ouais. Évidemment, ça peut être de bon augure pour la suite. On va voir ça évidemment dans quelques instants. Allez, c'est parti avec le mercato. Saber Desfarges nous a rejoint. On y va, toutes les infos qui arrivent avec lui dans quelques instants.
C'est combien?
30 000.
Attends, je vais te le machin.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber, fais-lui ses 30 000, c'est un con.
J'ai dans cette enveloppe toutes les infos du jour.
Et je peux vous dire... T'es quand même un peu plus drôle que lui. Hein.
Ouais. Bon, bref, que Gilbert. Pas Bribois, hein.
Pour
on va parler, je disais, info, intox. En tout cas, on va vous donner les infos RMC Sport avec Saber. Saber, salut déjà, bien sûr, bienvenue dans l'after. Neymar, proche du PSG, d'après... On est bien d'après un média brésilien, ça
Exactement. Le Brésilien a dit oui au club parisien d'après Esporte Interativo. C'est ce qu'on a pu apprendre justement dans cet après-midi de ce média brésilien. Le Paris Saint-Germain serait prêt à payer la clause libératoire de 220 millions d'euros pour engager Neymar. Officialisation attendue dans deux semaines d'après le média brésilien. D'après nos informations, on en est au stade des discussions. Et uniquement au stade des discussions aujourd'hui, aucun accord a été conclu entre le Paris Saint-Germain, Neymar et le FC Barcelone. Côté parisien, des différentes personnes que l'on a pu avoir au bout du téléphone, on parle d'un dossier très complexe, extrêmement difficile. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle uniquement de première touche, de première discussion, et notamment de la part de l'entourage de Neymar qui est rentré en contact avec le Paris Saint-Germain par le biais du père de l'international brésilien, on en parlera évidemment, j'imagine, un peu plus tard, et qui a fait part de son intérêt pour le club de la capitale. Mais encore une fois, les deux clubs discutent mais sont très très loin d'avoir trouvé un accord à l'heure où l'on se parle. Et surtout, le Paris Saint-Germain ne serait pas du tout enclin à régler la clause libératoire, à savoir de 120 millions d'euros. Mais en revanche, et ça encore on l'a appris juste avant de venir dans l'after, le Paris Saint-Germain serait prêt à s'aligner sur les prétentions salariales de Neymar.
En tout cas voilà, 222 millions, c'est 222 ouais, je crois d'ailleurs,
222 millions.
La clause libératoire, ouais. Donc ça c'est un fait. Il y a un fait aussi, c'est que le PSG, enfin le fonds on va dire souverain qatari, peut dans l'absolu payer cette somme. C'est pas un problème, c'est plutôt un problème de marché, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être pas prêts à le faire par rapport au marché global des transferts. Neymar au PSG, est-ce que c'est, en fait la question est très simple, est-ce qu'il fait comme l'an dernier, est-ce qu'il fait monter les enchères?
Exactement.
Pour son transfert,
c'est ça, la
ou est-ce que pour le coup le PSG est en passe de réaliser peut-être le plus gros coup de son histoire récente?
Me regardez pas comme ça.
J'ai l'impression d'avoir un peu mis le feu à Internet ce matin. Donc moi, je me range derrière l'avis de nos experts mercato et j'ai rien d'autre à dire de plus que de faire confiance à Saber, Oussem et Mohamed qui travaillent là-dessus. Après, je pense que l'information qu'on peut en retirer, c'est que le Paris Saint-Germain, je vais me confirmer ou infirmer, c'est que le Paris Saint-Germain essaie vraiment de faire Neymar et que Neymar est vraiment intéressé.
En tout cas, de faire un
gros intérêt réciproque. Alors, l'intérêt réciproque, ça, honnêtement, je ne peux pas te le dire. Ouais. Ce que je peux t'assurer, en revanche, c'est que le Paris Saint-Germain, oui, discute avec le joueur, mais ça, ça date pas d'aujourd'hui. Déjà, l'an passé, on sait très bien, le Paris Saint-Germain a tenté de faire venir Neymar, et on s'est vite rendu compte que Neymar se jouait un petit peu du Paris Saint-Germain pour faire monter les enchères auprès du FC Barcelone et être prolongé dans la foulée. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la démarche aujourd'hui, donc, de Neymar, de nouveau, de réaliser la même affaire et, au final, se servir une nouvelle fois du Paris Saint-Germain pour obtenir gain de cause auprès du FC Barcelone? C'est la question qu'on peut se poser.
On n'a pas clairement.
Voilà pourquoi on parle uniquement de discussion.
On n'a pas plus de certitude, pas plus de
même pas de conviction.
Ça non. De petits signaux qui nous
voilà. Alors, ça, en revanche, ce que l'on remarque quand même, ce que l'on remarque quand même, Saber, le PSG a discuté pour Mbappé. Sur des bases élevées quand même. Enfin, on sait que de toute façon pour Mbappé, il faudra débourser. Le PSG pourrait discuter pour Neymar. Donc, en tout cas, le PSG cherche à faire. Ça, c'est forcément plus un secret de polichinelle. Un très gros coup, un peu de marquer le mercato. Quoi.
Oui, le Paris Saint-Germain cherche à faire effectivement un très gros coup lors de ce mercato là. Mais encore une fois, et je suis extrêmement vigilant par rapport à cela. On parle de discussion et uniquement de discussion entre les deux parties. Mais ce qu'il faut savoir, c'est effectivement que le Paris Saint-Germain a réouvert ce dossier-là, entre guillemets, à la demande de l'entourage du Brésilien qui s'est approché directement du bord de Parisien quant à cette affaire.
Deux détails. Le premier, c'est que s'ils font un très gros coup, parce que Neymar, ce serait un énorme coup, ils ne pourront pas en faire d'autres puisque le fair play financier devrait entrer en jeu pour arbitrer le marché des transferts du Paris Saint-Germain. Deuxième détail, c'est l'hypothèse que j'avais soulevée avec une petite info à la clé, certes, mais c'était plus une hypothèse qu'une information la semaine dernière lorsque j'avais dit que si Marco Verratti trouvait un bon de sortie, ça ne serait que dans un sens, celui de la Catalogne, et que à ce moment-là, ça permettrait aussi de se servir de lui en tant que monnaie d'échange avec Neymar. Mais quand je dis monnaie d'échange, c'est pas simplement un échange. C'est que tu parles de 220 millions de clauses libératoires moins Verratti, dans une hypothèse.
Bon bah écoute, en tout cas on va suivre ça et de près évidemment.
Il y a quand même des fonds à débloquer du côté du Paris Saint-Germain en vue du fair play financier. Je pense à Serge Aurier, André Di Maria ou Javier Pastore qui du coup sera un peu trop.
Lucas, au revoir.
Lucas peut-être aussi. Verratti peut-être pas. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que je pense que la clause qui est énorme n'est pas le problème tant pour les capacités financières des propriétaires du Paris Saint-Germain que de l'argent qu'ils peuvent débloquer.
En tout cas, oui, c'est clair qu'en vendant financièrement, en vendant et avec ce qu'ils ont, en tout cas, c'est
il faut que tu aies
le faire,
45 millions en gros de déficit entre ton CA et ce que tu vas dépenser sur le marché des transferts.
Bon, voilà pour les infos qu'on pouvait vous donner en tout cas sur ce dossier-là. Un dossier plus simple, on va dire, et qui est réglé, c'est j'allais du côté de Nice.
Oui, et puis c'était l'information à MC Sport.
Il y a pas une clause, il y a une clause de 222 euros.
C'est pas sympa pour lui. Tu es moqueur, monsieur Gaudin.
J'aime beaucoup.
Parce que là, évidemment, c'était plus que des discussions entre Christophe Jallet et le OGC Nice. C'est une chose qui est maintenant aboutie, qui est faite. Christophe Jallet est niçois. L'Olympique Lyonnais a libéré l'ancien latéral maintenant, donc, de l'Olympique Lyonnais de sa dernière année de contrat. Et c'est ça qui a fait accélérer la donne du côté de l'OGC Nice. Il s'est donc rendu du côté de Nice dès hier soir avant de passer sa visite médicale ce matin et donc de s'engager officiellement pour l'OGC Nice. Aujourd'hui, on n'a pas encore le nombre d'années de contrat pour être honnête avec vous.
Il n'y en aura pas quatre.
Non, il n'y en aura pas quatre. Un, deux ans, c'est ce qu'on cherche à savoir. Mais en tout cas, même Nice ne l'a pas officialisé.
On conseille quoi, François? Beaucoup de crème solaire pour le crâne de Jallet, qui est niçois et chaud.
Non, mais on peut simplement lui conseiller de connaître la même réussite que son prédécesseur, Ricardo Pereira. Alors certes, beaucoup plus jeune, et je pense aussi avec un peu plus de ballon et donc d'avenir, mais c'est de l'expérience qui arrive à l'OGC Nice, et puis un bon joueur de Ligue 1, et ce qui est effectivement, on l'a tellement dit et répété, nouveau pour l'OGC Nice, c'est de pouvoir attirer des joueurs qui ont été, pas plus tard encore que l'année dernière, dans le groupe des 23 de l'Euro 2016.
Très bien. Eh ben écoute, voilà, l'avis officiel de l'attaché de presse de Nice. Non, je plaisante. Non, du niçois.
Peu me chaud.
Ouais. Non, mais c'est bien. Il y a peut-être C'est peut-être un appel du pied là qu'il a fait.
Non, Virginie Rossetti fait très bien son travail.
Mais faut staffer parce que le club grandit, le club grossit.
Ça va, j'ai donné.
Allez, dans quelques instants, la suite des infos mercato avec Saber Desfarges. Il y a toujours 0-0 entre la France et l'Islande. Est-ce qu'on refera notre coup de fil à Francis Land?
Mais oui, j'en ai parlé pas plus tard que ce midi en famille.
Bon, on ne sait pas, on hésite en fait parce que ça devient une sorte de marronnier. Donc et puis on veut pas le déranger parce qu'à force, il est très gentil, mais je crois qu'il capte rien au foot en fait. C'est un rugbyman, c'est un fan de rugby. Mais bon, allez, dans quelques instants, la suite des infos mercato. Et puis juste après, on sera avec l'avocat Thierry Grande-Turco pour parler de la DNCG. À tout de suite dans l'After.
RMC, l'After Foot, Florent Gautreau.
L'After est là et de retour. On est ensemble jusqu'à 23h et on a un nouveau venu autour de la table que vous connaissez bien, Arnaud Souk, qui présente l'After.
J'étais en haut, je suis descendu.
Il a descendu 6 étages d'un seul coup, comme ça. Il a sauté directement.
Et là, il est arrivé.
Mais je ne suis pas stressé.
Pas du tout.
Absolument pas. C'est quoi que me retrouver à la gauche de l'immense Jonathan McCarthy, c'est toujours un petit peu quand même impressionnant.
T'as ton col qui est bien rentré dans
ta veste. Ouais, mais toi, t'as pas de col, donc c'est pas mieux.
C'est vrai que en termes de tatouage, t'es moins fort.
Mais là, on voit pas grand chose.
On voit pas, attends.
Je ne suis pas là pour parler de tatouage. J'ai un tatouage du TEF quelque part, absolument.
Arnaud Souk va nous parler de Francis Land, ce match premier match de poule. On rappelle des Bleus à l'Euro. Ouais. Des Bleus avec
c'est un match qui se déroule dans un stade bien connu.
Tilburg,
non, mais surtout Tilburg. Le stade de Willem II. Le stade de Willem II, qui est un club qui évolue en Eredivisie.
Eredivisie Guillaume II, le stade de Guillaume II.
Et donc 0-0 toujours pour les Françaises, entre les Françaises et les Islandaises après 25 minutes de jeu. On rappelle l'importance de ce match. C'est le premier match des Bleus qui se retrouvent dans un groupe largement à leur portée avec donc l'Islande, la Suisse et l'Autriche. Et donc pour l'instant 0-0 face à la 19e nation mondiale. Mais les Françaises qui aimeraient bien transformer l'essai, j'ai envie de dire, après deux quarts de finale consécutifs où elles se sont fait éliminer au tir au but en 2009 et 2013. 0-0, il va rester 19 minutes en première mi-temps.
Très bien, merci Arnaud. Et moi, dans mon avis tranché tout à l'heure, je vous reparlerai
de ces
Bleus dont nous avons parlé longuement la semaine dernière avec Marinette Pichon. C'était fort intéressant. D'ailleurs, et on va en reparler tout à l'heure parce que c'est vrai que ça commence à faire long ces années sans titre, cette disette. Allez, la suite des infos mercato avec Saber Desfarges. Cahuzac à Toulouse, c'est très chaud.
Oui, et on l'a annoncé d'ailleurs vendredi, Yannick Cahuzac qui va bel et bien rejoindre Toulouse puisque l'information a été confirmée par qui? Eh bien, par son entraîneur, Pascal Duprat, en conférence de presse. C'était cet après-midi. Précision supplémentaire concernant ce dossier, c'est que la situation de Bastia est évidemment encore complexe puisque Bastia n'a toujours pas déposé le bilan et c'est ça qui complique la transaction, mais le joueur et l'entourage restent très optimistes pour finaliser donc le transfert avant la fin de la semaine. Yannick Cahuzac devrait être toulousain assez rapidement.
Ouais, c'est pas mal. Il faudrait qu'ils prennent un peu plus de genre de ballon autour, mais Cahuzac au TEF, ça va donner. Car l'avis du fan.
Disons que c'est pas dans la lignée de ce qui se fait d'habitude.
C'est pas mal pour donner des ballons.
T'as l'artiste qui laisse place au moins artiste.
Il y a ceux qui jouent du piano,
ouais,
ceux qui les déménagent.
Oui, voilà.
Bah là, c'est plutôt ceux qui les déménagent.
Toujours le sens de la formule.
Tout à fait. Ouais, enfin bon, j'ai juste emprunté.
Bravo.
Quelqu'un qui
l'a emprunté.
Ah, j'ai emprunté, il n'y avait pas à moi. Tiens, deux officialisations à Montpellier.
Ouais, c'est de René d'ailleurs. De René qui débarque du côté de la Payade. Pedro Mendes et Giovannicio sont donc aujourd'hui Payadins. Les deux, pardon?
Pedro Mendes? Pedro Mendes. Le défenseur.
Ouais. Exactement, le défenseur et l'attaquant ivoirien de 28 ans qui était en froid. C'est méchant.
Ça, c'est nul.
C'est méchant.
Mais
ça, voilà, ce sont tes propos, Giovannicio, ouais, qui a réalisé quelques belles saisons quand même du côté de Rennes, qui a été l'un des meilleurs buteurs rennais en tout cas ces dernières années.
Ils avaient un peu de mieux sous la main.
C'était clairement.
Ah bon, que t'es gentil, ça.
Non,
c'est pas dans les contacts.
Aucunement en plus. Non, je suis objectif.
Non, disons que Giovannicio, évidemment, si tu considères que c'était le seul.
Non, mais dans l'équipe réelle. Ah, c'était l'un des meilleurs buteurs quand même.
Ah, forcément,
c'est
d'un
saison, ils ont pas d'attaquant.
Mais bon, après, il est un peu maladroit.
C'est ça.
Quoi.
Ouais. Il a fait jouer
sur
le banc.
C'est un élite. Ouais. Enfin,
non, mais la raison, Grosicki était au-dessus.
Ouais, mais c'est pas niveau.
Non, mais enfin, même Grosicki, je pense qu'il en est limite à plus de buts que sur la fin de la saison. Je suis pas sûr, mais bon.
Tiens, Pierre, sur le temps de jeu, il a planté.
Pierre est avec nous, supporter de Rennes, va nous parler justement de ces deux joueurs. Est-ce que tu les vois partir? Salut Pierre, déjà, pardon. Bienvenue dans l'After.
Bonsoir.
Est-ce que tu les vois partir avec regret?
Regret oui et non, c'était deux bons footballeurs, deux bonnes personnes surtout. Je sais que Sio était pas mal en froid avec les supporters rennais, mais
et il a eu un petit clash avec Gourcuff la semaine dernière.
Ouais, enfin ça c'est ouais.
Si, on te confirme.
Ouais,
c'est pas grave mais ça arrive.
Bon, maintenant il est parti donc c'est pas grave.
Et Pedro Mendes.
Après oui, c'était le voir partir sans vrai, non, puisqu'on à leur poste, on vit mieux, je pense. Tandis que là, avec la charnière Ben Sebaini Gagnon, ce Mexter en backup et peut-être Mandy qui est en pour parler apparemment, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de Pedro Mendes et on cherche un ou deux joueurs devant. Donc, Sio, le voir remplaçant, je suis pas sûr qu'on soit dans la tête de tout le monde. Mais... c'est peut-être pas plus mal comme ça.
Bon, tiens, profitons-en pour faire un petit point Rennes, un point Rennes. Notamment au niveau des latéraux, on l'a dit, c'était pas mal, hein, puisqu'ils ont pris Mawassa, entre autres. Pour le reste, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Hein.
Bah, Mawassa pour jouer milieu gauche.
Oui, il va jouer milieu parce qu'en fait, évidemment.
Un peu comme il faisait avec Guerrero, je pense.
Exact, ouais. Et est-ce que tu es satisfait de ce début de mercato ou tu trouves ça un peu juste?
Je trouve ça encourageant. Après, on attend toujours, comme depuis plusieurs années, un neuf. Un attaquant, un mec qui met des buts, parce que les actions, on les a, c'est celui l'année dernière, même face aux grosses équipes, on les avait, mais on concrétisait pas, quoi. Donc, on est toujours à l'attente du neuf, mais bon, c'est pareil dans tous les clubs, donc on verra bien. Mais sinon, à côté de ça, oui, est-ce qu'on a renforcé quelques points un peu négatifs? Et donc, le milieu gauche, où on est obligé de placer Benjamin André à ce poste-là, parce qu'on n'avait pas de joueur. L'arrière droit, qui sera peut-être plus complémentaire avec Amalfitano. On récupère aussi Bourigeaud, qui est un bon joueur de ballon à Lens. Pourquoi pas.
Il fait rêver.
Ouais, c'est dur, là.
Mais le mieux, c'est d'avoir gardé quand même nos meilleurs espoirs, oui. Comme Gagnon et Ben Sebaini.
Alors ça, c'est vrai que c'est un bon joueur. Gagnon était d'ailleurs était courtisé, hein, d'ailleurs.
Ouais. Par ouais, Ben Sebaini aussi.
Ben Sebaini aussi, t'as raison. Bon, mais Pierre, écoute, on te souhaite une bonne saison.
Oui, oui.
Oui, ben merci.
Et à bientôt.
Continuez à dégraisser.
Hein, aussi. Sont en mode tranquille.
Non, parce que tu peux voir qui ils sont en train d'acquérir, mais aussi qui est-ce qui lâche là, puisque tu nous disais qu'il y en avait deux qui étaient partis. T'as pas les montants d'ailleurs?
Non.
Sio, tiens, j'étais curieux.
Non.
Il a pas les montants.
Non, j'ai pas les montants.
Mais il est sous pression, ça verra. Il est en mode Clermont Foot, là, attention.
Attends, pourquoi tu chambres le Clermont Foot? Qu'est-ce que vient faire le Clermont Foot?
Je vais te dire ce que vient faire le Clermont Foot dans cette soirée. C'est le seul club professionnel qui a un entraîneur féminin. Et ce soir, on parle foot féminin. Voilà, c'est tout.
Très bonne transition.
Voilà, bonne réponse.
D'ailleurs, quel est le score de ce match entre la France et l'Islande?
Le score est toujours 0-0.
D'accord,
il reste 14 bien. Minutes. Et pour l'instant, elles ne sont pas très, très rassurantes.
Pas c'est bien.
Voilà, bon, même si, visiblement, l'arbitre italienne n'a pas sifflé un péno qui aurait pu revenir aux Français suite à un tirage de maillot dans la surface. Mais bon, c'est pas extraordinaire.
Vidéo, ça a enflammé la suite aussi.
Mais tu sais qu'il y a une quatrième remplaçante en cas de prolongation.
En cas de prolongation.
Pas sur ces matchs, mais à partir des quarts de fédération,
il y avait le quatrième remplaçant.
À partir des quarts de finale.
Bah oui. Puisqu'il n'y a pas de prolongation. Merci Flo.
Non, mais au cas où sur le foot féminin, on pensait qu'il y avait des prolongations.
Mais j'ai précisé quand même. Allez, toujours 0-0.
Saber, merci.
Merci à vous.
Bon courage.
Et bonne nuit.
La nuit va être longue.
Parce que tu vas avoir du boulot, à mon avis.
Terminé.
Vraiment, du côté de l'ambassade du Brésil.
Il n'y a pas que cette nuit qui va être courte, Saber.
Je pense, ouais.
Saber Desfarges est avec nous. Et à tout moment, il peut revenir dans l'affaire. Évidemment, il est le bienvenu. Dans quelques instants, Thierry Grande-Turco, avocat, et qui va nous parler de la DNCG. Car un arrêt récent du Conseil d'État va peut-être compliquer un petit peu les choses de la vision qu'on a de cette institution qu'on dit souvent très totalement indépendante. On va vous expliquer tout ça dans quelques instants. 0-0 entre la France et l'Islande, c'est le premier match de poule de l'Euro féminin. Toutes les infos mercato sont à retrouver, on vous le rappelle, sur rmcsport.fr. A tout de suite.
RMC, l'afterfoot, Florent Gautreau.
L'after est de retour, 21h-23h, toujours 0-0 entre la France et l'Islande. On va peut-être se commenter ce petit coup franc, Arnaud Souk, qui suit le match avec nous. Parce qu'il y a un coup franc à une vingtaine de mètres, et la célèbre Amandine Henry est pas loin du ballon.
Voilà, il y a Amandine Henry qui est pas loin, il y a également Camille Abili. On est plein d'axes, il y a eu un joli coup de pied arrêté juste avant et une tête qui aurait pu aboutir à une situation extrêmement dangereuse. Attention, c'est parti avec Amandine Henry et ça sera dans les mains de la gardienne islandaise. Ça fait donc toujours 0-0. On a le sentiment, on le disait pendant la petite pause en regardant le match se dérouler, on a le sentiment que ça va être sur coup de pied arrêté que les Françaises vont pouvoir faire la décision. Pour l'instant, dans le défi physique, les Islandaises répondent vraiment présent et c'était la crainte précisément des Bleus. Donc voilà, il va falloir notamment bien négocier les phases de coup de pied arrêté. Toujours 0-0, il reste 9 minutes en première période.
Merci beaucoup. On va maintenant parler de la DNCG, cet organisme, le fameux gendarme financier de la Ligue 1 et pas que de la Ligue 1 d'ailleurs, mais en tout cas du foot français, qui a une très bonne réputation. Parce que c'est vrai qu'en France, on a été un peu précurseur dans cette gestion et dans cette, on va dire, cette vigilance vis-à-vis des clubs français. Et Thierry Grande-Turco, qui est avocat à la Cour. Bonsoir, maître.
Bonsoir.
Est avec nous ce soir dans l'after.
Bonsoir.
Parce que vous avez communiqué sur quelque chose qui a un peu échappé, hein, pour tout dire, un peu à tout le monde en cette fin juin, un arrêt du Conseil d'État qui remet en fait en cause en quelque sorte une donnée qu'on pensait un peu évidente pour tout le monde, à savoir l'indépendance de la DNCG. Vous dites, fondant sur cet arrêt du Conseil d'État, eh bien la DNCG n'est pas indépendante.
Oui, effectivement. Bon, c'était aussi un secret de polichinelle. C'est-à-dire que le Conseil d'État ne fait en fait que confirmer ce que beaucoup pensaient déjà. La DNCG, c'est une émanation de la Fédération française de football. Elle n'a pas d'autonomie, elle n'a pas d'indépendance. Elle est en fait administrée par le secrétariat de la Fédération française de football. Elle peut même pas signer ses décisions. Et on a su, par ailleurs, avec les cas du Mans, lors de la saison 2011-2012, mais plus tard aussi avec Lens, que lorsque des décisions de la DNCG déplaisent au COMEX, hein, donc au comité exécutif de la Fédération française de football, bah, les hauts dirigeants de la Fédé savent s'écarter des décisions de la DNCG, ce qui montre bien, si vous voulez, l'absence d'indépendance de la DNCG en l'occurrence.
Alors, rappelons pour être clair, par rapport à ce que le Conseil d'État a dit dans son arrêt, la DNCG, vous l'avez dit, est un organe de la 3F. Elle n'a pas de personnalité morale distincte, hein, c'est ça qu'il faut dire.
Oui. Oui.
Ce qui explique donc, on va dire qu'elle n'est pas indépendante. Est-ce que ça remet en cause son efficacité? Parce que finalement, juridiquement, on vous suit, et vous avez raison de le dire, en quelque sorte, on le savait sans peut-être y faire attention. Est-ce que ça remet en cause finalement la validité de son travail?
Non, je pense qu'elle est composée de membres qui sont tout à fait... qui font leur boulot de manière indépendante, sans pour autant, si vous voulez, que l'organe le soit. Si on reprend, je pense que cet exemple, il est parlant en soi, si on reprend le cas du club du Mans, encore une fois en 2011-2012, on sent que la DNCG dit qu'il faut arrêter, c'est-à-dire que le club doit cesser ses activités, en l'occurrence, ils étaient à ce moment-là en Ligue 2. Or, pour l'intérêt supérieur du football français, puisqu'on se rappelle de toute l'importance qu'avait le stade du Mans à l'époque, puisque c'était notre premier stade en partenariat public-privé, en PPP, à ce moment-là, la Fédération française de football, elle passe outre. Et elle décide que non, finalement, on va écarter la décision de la DNCG et on va maintenir le Mans en Ligue 2. Donc, et c'est sur ce genre de décision qu'on se rend bien compte que, quels que soient, si vous voulez, les membres de la DNCG, quel que soit leur boulot, s'il y a un moment donné leur décision devait déplaire au COMEX, et ben ils s'en écarteraient. Alors pour autant, ça rend pas le rôle de la DNCG, si vous voulez, complètement indu. C'est la DNCG fait son boulot chaque été. Hein, et on rappelle que cette DNCG elle est née en 84, puisqu'il y a, c'était on faisait suite au caisse noire de Saint-Étienne, et que elle avait pour but de s'assurer la sincérité des comptes de chaque club professionnel. On est descendu depuis lors au club de national CFA, on va même jusqu'en DH maintenant. Mais à l'époque, l'objectif, c'était de s'assurer qu'un club qui s'engage en championnat n'implose pas en plein vol.
Oui, des finances.
Celui qui commence le championnat ait les moyens financiers de le terminer.
Et ça, donc, ça, on peut dire quand même, cet aspect-là, au global, est plutôt une réussite.
Oui, alors il y a quand même, encore une fois, un exemple, hein, celui de Gognon, 2010-2011, qui explose en plein vol aussi, en pleine saison.
Mais non, mis à part sur la totalité des saisons, on va dire récentes, parce que sans remonter à 84, on va dire de plein exercice de la DNCG, de son plein pouvoir, on peut dire que la régularité des compétitions, au moins à ce titre-là, ça a été plutôt respecté. Après, on peut discuter sur l'efficacité dans certaines décisions, mais l'objectif numéro un qui était de garantir l'équité des compétitions sur ce plan-là était plutôt respecté.
Oui, là on peut dire que c'est un succès. Ceci étant dit, essayez de trouver un exemple dans les grands championnats européens où il n'y a pas de DNCG, où un club n'aurait pas terminé
la
saison.
En Italie, il y a une DNCG. Pardon, maître, je vous ai coupé la
parole. Oui, il y a des DNCG un peu partout, hein, mais avec des règles comme les nôtres, il y en a peu. Hein. Regardez en Angleterre, par exemple, où on arrive à sauver un club comme Bolton qui aurait chez nous 10 fois fait faillite. Hein, en Angleterre, il est toujours là. Donc on a en France une DNCG qui est particulièrement stricte, avec des règles particulièrement strictes. Et il est vrai que sur la régularité des championnats, avec l'impossibilité pour un club a priori de ne pas terminer son championnat, là c'est une grande réussite. Voilà. On peut la remettre en perspective
Italie,
avec
DNCG...
les autres.
Oui. En Italie, la DNCG, enfin, comment tu l'as dit?
Covisoc
est assez strict quand même. On se rappelle du cas de Parme notamment, qui a été rétrogradé. Il y a quand même des règles à l'étranger qui sont aussi strictes et applicables avec des actions qui sont rendues de fait.
Bon, en gros, en Italie, oui, et puis en Angleterre, en Espagne, moins.
Oui, en Allemagne aussi, même en Italie. Si vous voulez, il y a eu une étude comparative qui a été faite par le Sénat sur les règles de NCG dans l'ensemble des grands championnats européens. On est largement les plus rigoureux.
Oui, voilà,
on va pas s'en plaindre. On va pas s'en plaindre, hein, puisque manifestement, en termes de continuité et de régularité des compétitions, ça porte ses fruits. Voilà. Après, il est vrai qu'on peut se poser des questions sur le développement du football français sous cette chape des NCG. Parce que par contre, ce que l'on constate, c'est que pendant ce laps de temps-là, on aurait pu se dire que la DNCG aurait aidé au développement ou en tout cas à la sécurisation de l'économie du football chez nous et de la structure financière de nos clubs. On constate qu'en réalité, il n'en est rien. Et on constate aussi que finalement, on est le pays dans lequel il y a le plus de faillites de clubs, hein, de très loin par rapport aux autres pays. Donc sur cet aspect-là, on peut se poser des questions et se demander si finalement on n'est pas un tantinet trop strict.
Mais Maître, bonsoir.
Bonsoir.
Bon, je vous écoute, hein, mais je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur certains aspects. Qu'il y ait beaucoup de clubs en France qui aient mis la clé sous la porte. La DNCG se veut être un gendarme financier, non pas un guide, un accompagnateur presque sur la gestion d'un chiffre d'affaires, de budget, de club, de L1, L2 et des étages inférieurs. Elle est là pour être une caution pour la fédération quant à des finances saines de la part des clubs. Si certains d'entre eux ont mis la clé sous la porte, c'est parce qu'ils ont été, et pas mal de cas sur les 25-30 dernières années, ils ont parfois été mal gérés. Et s'il n'y avait pas eu de DNCG, alors c'est peut-être du football fiction, mais on peut légitimement croire que beaucoup d'autres clubs, plusieurs autres clubs, parce que le football est aussi une danseuse et qui entraîne parfois quelques excès de la part de ses dirigeants. On aurait eu une Ligue 1 ou une Ligue 2 avec beaucoup plus de rétrogradation administrative, beaucoup plus de faillites, de banqueroutes. C'est en ce sens où je vous suis pas. Et sur votre communication, ou en tout cas ce que vous soulignez sur une indépendance un petit peu partielle finalement, puisque la DNCG, et j'en sais quelque chose, je pouvais presque citer, enfin, à quel étage elle se trouvait à la fédération, est un organe de la fédération, il n'y a pas a priori d'autres possibilités, que ce soit en France ou dans d'autres pays, d'avoir un organe de contrôle, de gestion totalement indépendant de la fédération qui gère, qui pilote un football dans son propre pays.
Alors, je suis désolé, mais il faut que je revienne sur ce que vous dites à différents points de vue. Vous avez raison de dire que lorsqu'il y a une mauvaise gestion et qu'un club fait faillite parce qu'il est financièrement exempt, parce qu'il a très clairement, il a fonctionné sur un certain nombre d'années avec des dépenses très largement supérieures à ses recettes, qu'il y ait une faillite qui soit constatée par la DNCG, ça ne pose aucun souci. Par contre, quand vous parlez de rétrogradation administrative, c'est souvent que le club n'est pas exempt financièrement, qu'il n'est pas en situation de faillite, mais que le règlement l'amène à devoir être rétrogradé administrativement.
Donc effectivement, quand vous êtes...
Pardon ?
Il n'est pas à l'équilibre.
Il n'est pas à l'équilibre, mais il n'est pas en faillite. C'est-à-dire que n'importe quelle société commerciale dans n'importe quel secteur continuera à vivre.
Oui.
Mais dans...
C'est vrai qu'en ce sens, la DNCG, en fait, on donne un pouvoir exorbitant, en fait, à la DNCG.
La DNCG peut estimer que malgré que le club puisse être pérenne, c'est-à-dire qu'il pourrait continuer à fonctionner. Seulement, il a, pour être un peu technique, il a des fonds propres qui sont négatifs, c'est-à-dire qu'il est dans une situation financièrement déstructurée. Alors on estime qu'il doit cesser son activité maintenant. Il est rétrogradé. Quand un club de Ligue 1 ou de Ligue 2 est rétrogradé en CFA 2, ou en CFA, qui est le niveau de compétition de son équipe réserve, nécessairement, il fait faillite. Nécessairement, puisqu'il tombe, en fait, au niveau de compétition de son association.
Au lieu d'essayer de trouver peut-être une solution qui serait trouvable pour d'autres entreprises, ce qui est le cas parfois avec de nouveaux investisseurs ou autres, vous dites, on les rétrograde, et là, forcément, réduit au niveau du CFA, là, tout le monde met la clé sous la porte, il n'y a plus aucun investisseur.
C'est ce que soulignait Maître Grand-Tourcault sur le fait qu'il faut qu'il y ait des fonds. Et c'est la même chose qu'on retrouve à l'échelle de l'UEFA avec le fair play financier. On demande aux clubs à ce qu'ils aient des fonds suffisamment conséquents pour encaisser un choc, comment dirais-je, économique dans le cadre d'un très gros transfert. Mais effectivement, il faut que le club ait des liquidités.
Oui. Donc si on compare ça à la situation anglaise, par exemple, on constate qu'il y a un certain nombre de clubs qui sont dans des situations financièrement où chez nous, ils seraient rétrogradés, qu'ils ne le sont pas, et qui continuent leur activité. Bolton vient de remonter, je crois, en D2.
Ce qu'on veut
donc on a une différence d'approche qui se... encore une fois, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui devrait, en tout cas, s'étudier un peu plus profondément, parce qu'il y a des discours qui sont des discours qu'on entend régulièrement à gauche, à droite, et qui consisteraient à dire que notre DNCG est un exemple. Or, si elle était tant un exemple que ça, on aurait quand même une économie en Ligue 1 et Ligue 2 qui ne reposerait pas que sur des apports en compte courant de leurs actionnaires et sur des transferts, d'une part, et on aurait d'autre part pas autant de faillites. C'est-à-dire que quand on examine cette situation au regard des faits, on se rend compte qu'il y a quand même un problème. Voilà. Alors, maintenant, qu'il faille remettre en cause le rôle de la DNCG globalement, je dis non, la DNCG est absolument nécessaire. Maintenant, qu'il faille regarder un petit peu la rigueur des règlements qu'on applique chez nous, vraisemblablement, oui.
Vous dites qu'il faut réformer le code du sport. Hein, et vous en appelez à Laura Flessel, la nouvelle ministre des Sports.
Oui, en tout cas, si vous voulez, je pense qu'il faudrait revoir cette question d'indépendance, parce que c'était un point sur lequel je souhaitais également revenir. Bien entendu que si, on peut avoir une autorité indépendante. Et si on veut vraiment une DNCG indépendante, alors elle peut être, si vous voulez, autonome de la Fédération Française de Football. Et alors, à ce moment-là, ces décisions seraient contestables devant les tribunaux.
Mais qui la piloterait? Moi, ça m'intéresse beaucoup, cette question d'autonomie. Mais qui la piloterait, sachant que toutes les fédérations de foot au monde ont l'injonction de la part de la FIFA qu'il n'y ait aucune entremission des gouvernements.
Oui.
Et alors moi, ça m'intéresse, c'est vraiment une vraie curiosité. Comment piloter cette commission indépendante à la fois du ministère des Sports et de la fédération qui pilote le football en France?
Oui, si vous voulez, on pourrait par exemple avoir une DNCG omnisport ou multisport. Une DNCG, en tout cas, dont les décisions ne pourraient pas être renversées par le COMEX d'une simple fédération. C'est ce qui se passe aujourd'hui.
Ça pourrait au moins la rendre indépendante de la fédération.
Oui, c'est ça. Il faudrait que lorsqu'une DNCG prend une décision, elle prend ses décisions avec quand même des hommes et des femmes qui sont compétents, qui viennent siéger à la DNCG avec l'indépendance d'esprit qui est la leur. Lorsqu'ils prennent une décision sur la santé financière d'un club, on pourrait s'attendre à ce que leur décision ne soit pas renversée par le commerce.
Ah, Maître Grand-Turcot, une dernière question très importante. Par rapport à cet arrêt du Conseil d'État, est-ce qu'on peut imaginer, puisque ça souligne et ça grave, on va dire, dans le marbre du droit au moins administratif, qu'il y a un conflit d'intérêts, qu'il y a un manque d'indépendance? Est-ce que les clubs, comme Bastia, pour faire simple en ce moment, qui va d'ailleurs passer devant le CNOSF, est-ce qu'ils peuvent aller en justice pour dire maintenant qu'il est dit officiellement que la DNCG n'est plus indépendante, alors on attaque... je sais pas, la fédération, et on attaque la décision?
Non, je pense que c'est pas aussi simple que ça.
Parce que sinon, ils vont venir sonner à votre cabinet, maître.
Oui, non, mais bon, en l'occurrence, il y a un club qui attend justement la décision de Bastia et qui est dans les starting blocks pour savoir s'il prend action ou pas. Celui-ci est déjà au sein de mon cabinet. Mais en l'occurrence,
c'est Paris FC, c'est ça?
Oui, c'est bien tenté. Mais il n'y a pas, de corrélation très évidente, si vous voulez, entre le dommage que peut subir un club et l'indépendance ou pas de la DNCG. Donc il faudrait vraiment que la décision, comme ça a été le cas par exemple à l'époque de Metz, quand la Fédération Française de Football a décidé de maintenir Le Mans malgré la décision de la DNCG, c'est Metz qui en a pâti. Eux ont été à ce moment-là devant les tribunaux pour estimer que là, l'indépendance impactait directement leur situation. Maintenant, Bastia est dans une situation financière telle, si je suis correctement informé, que je pense pas qu'il puisse se plaindre d'une absence d'indépendance de la DNCG dans le...
Oui, mais sauf que si on se base sur les principes, on parle même pas finance, on part d'abord du principe. Après, je me suis trompé, c'est le Red Star, c'est ça qui est
Le Red Star, le PSC, il y a un autre club qui regarde.
Parce que Patrice Haddad nous en a parlé, effectivement, il a envisagé de porter l'affaire devant d'éventuels tribunaux. Maître Grand-Turcot, merci beaucoup pour tous ces renseignements.
Merci, maître.
Et à bientôt. Je sais que vous êtes un fan de l'After, donc je sais que vous êtes un auditeur régulier.
Voilà.
Et merci en tout cas d'être intervenu dans l'After.
Merci beaucoup.
À bientôt. La mi-temps du côté de l'Euro féminin, Arnaud Souk, 0-0 entre la France et l'Islande.
Ouais, on n'a pas vibré, les Bleus très déçus, les Islandaises remontées, mais alors comme des coucous, elles se sont tapées dans les mains à la mi-temps, façon genre on a gagné. Non, il y a bien 0-0 à la mi-temps entre l'Islande et la France. On a vu une expérimentation arbitrale sur cet Euro. Les cartons jaunes
sur le distribuer à des membres du staff sur le banc. C'est-à-dire que là, il y en a un qui a crié parce que il y avait ils encouragent véritablement à mettre des jaunes, à mettre des rouges, là c'est pas l'entraîneur, si tu veux. Là c'est un kiné qui a pris un jaune, quoi, tu vois, enfin c'est
j'ai vu un kiné expulsé en équipe de France qualification.
Et on rappelle que les arbitres peuvent mettre des cartons à des joueurs qui sont remplaçants dans le couloir du vestiaire, expulser des remplaçants, etc.
Mais là voilà, ils encouragent à le faire particulièrement, c'est écrit dans les règlements de 7 euros qu'ils encouragent particulièrement à le faire.
Et au bout de le kiné, au bout de 3 cartons en 10 matchs, il peut plus masser.
Ah ouais.
Pendant il va passer les jeudis soirs en plus en discipline, ils vont envoyer les kinés.
N'importe quoi. Mais il y a eu un kiné de l'équipe de France Espoir qui avait été expulsé. Pour ceux qui s'en souviennent, dans un match où l'équipe de France Espoir s'était faite carotter comme c'est pas
le Portugal,
France-Italie, je crois un arbitre portugais, un France-Italie qualificatif pour le
France-Portugal
à Clermont.
Ouais. Non, mais clairement, c'est autre chose. C'est le vestiaire complètement dévasté.
Il y avait le match avant, tu vois. Bon, bref. Ouais.
Très bien. Et donc, le kiné
s'était fait expulser du banc. Moi, j'ai même connu un attaché de presse expulsé dans le couloir d'un match de Coupe du Monde.
C'était toi ?
C'était pas moi parce que j'étais pas attaché de presse en 2014.
D'accord. Bah, c'est récent, ça.
Il avait mis son poing dans la gueule de son homologue chilien.
Ah, je connais un attaché
Brésil
de presse.
Chili en huitième de finale.
Il s'est battu aussi avec un dirigeant rémois aussi, moi. Un attaché de presse ex-journaliste.
Bon, oui, beaucoup d'ex-journalistes.
Dans quelques instants, merci Arnaud pour évidemment ce français. Il y a deuxième mi-temps.
T'as pas dit grand chose là.
Jonathan, je tiens à t'expliquer que le foot féminin c'est 2 fois 45 minutes comme le foot masculin. Ça ne s'arrête pas à la mi-temps.
Ça s'arrête pas. Non, ça n'est pas bien le foot féminin.
Allez, dans quelques instants, la suite de l'after. On va parler de Nantes. C'est notre tour de France des clubs qui nous y amène ce soir. On vous attend au 32-16, supporters nantais. À tout de suite dans l'after.
RMC, l'after foot, Florent Gautreau.
J'attends un peu parce que sur BFM Sport, nous ne sommes pas encore totalement à l'antenne. On est en simultané sur RMC et BFM Sport. L'after est de retour, 21h, 23h, c'est l'after de l'été. On est avec François Manardeau, avec Jonathan McCarthy. Et on va parler de Nantes. Un petit mot quand même sur cette équipe de Nantes. Ça fait plusieurs soirs qu'on voulait en parler. On va être dans quelques instants avec des supporters nantais, évidemment. Vous nous appelez au 32-16. Parce que, évidemment, on a changé de coach, on a changé de staff. Mais et pour l'instant, d'ailleurs, ça se passe pas trop mal. Hein. D'ailleurs, en termes de jeu, ce qu'on en a vu en match amical. En termes de recrues, en revanche, on reste un peu sur notre faim. Et c'est un peu ce qu'on craignait, d'ailleurs, après ce que le président Kita nous avait dit. C'est-à-dire qu'il a mis beaucoup d'argent sur les staffs et l'entraîneur, mais on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir comme joueur. Qu'est-ce qu'on peut espérer, pour Nantes, cette saison ? Est-ce que, après le départ de Conceição, en gros, Ranieri prend un héritage difficile ou au contraire, est-ce qu'on continue sur la même voie ?
Qui commence, qui se lance.
Bah, vas-y.
Bah, écoute, de ce qu'on en a vu en match amical, c'est vrai que c'est assez prometteur en termes de jeu. L'équipe, on voit qu'elle est beaucoup plus cohérente, même si c'était déjà pas mal avec Conceição. On voit qu'elle est tout de suite cohérente dans le jeu offensif. Même si ça n'a pas non plus été les étincelles, mais on sent quand même qu'il y a déjà des beaux débuts d'automatisme. Après, ce qui est certes inquiétant, c'est de voir le nombre de râteaux que le FC Nantes prend pour l'instant. Et on s'en est pas l'Isman 10, par exemple.
On reparle un fait, puisqu'on est on est à bloc là-dessus dans l'after. Pas de cellule de recrutement à Nantes.
C'est ça le problème, et c'est là où j'avais voulu en venir. Quand on voit le nombre de râteaux
qui se prend, le père Kita, Ranieri avec son pote italien.
Exactement. Et on voit que le problème pour l'instant, c'est que le FC Nantes a recruté un très bon entraîneur, un très grand entraîneur, un très grand nom, mais que j'ai l'impression, j'attends de voir ce qu'ont mis nos auditeurs, c'est que le reste du club n'a pas été structuré à la hauteur de la qualité du coach. Et tu peux pas te contenter de prendre un super entraîneur si derrière dans ta structure et dans ton organisation ça suit pas. T'as besoin d'une vraie cellule de recrutement qui fait le taf. T'as besoin de gens qui ont des réseaux pour aller chercher les joueurs et tu peux pas bricoler artisanalement comme ça en disant bah tiens on va appeler Nampalis Mendy et on va essayer de le faire venir. C'est très très compliqué de faire comme ça et j'espère pour Ranieri, pour qui j'ai beaucoup de sympathie, que le club va se remettre dans le droit chemin, va essayer de mieux s'organiser, de mieux travailler parce que pour l'instant juste reprendre un super coach ça va pas suffire.
Romain est avec nous, à moins que François ait un mot à ajouter.
Tout dit, hein. Sans cellule de recrutement, je vois pas trop comment tu peux faire.
Et supporter.
Surtout que dernier recrutement en tête de de Monsieur Kita, président, et peut-être le fils, c'était notre ami islandais dont j'ai oublié le nom, mais qui devait terminer Partson, qui était attaquant à l'Ajax. Je crois qu'un des c'est les plus gros transferts de l'histoire du FCN.
Sid Kjørsson.
Et il, je sais pas où il a fini, peut-être dans un hôpital psychiatrique.
Ce qui est triste, c'est qu'il a fait un très bel Euro. Et on s'est rendu compte que c'était un très bon joueur.
Il a fait un bon Euro.
Et avec un autre entraîneur, ça aurait pu être beaucoup mieux.
Moi, je pense que là, pour le coup, effectivement, c'était pas forcément la plus mauvaise recrue, mais il a pas été mis en valeur.
Il était très bon, mais il n'a jamais été mis en valeur dans une équipe entraînée par quelqu'un qui avait très peu de compétences.
Oui, d'accord, mais à un moment donné, bon joueur, quand il a des qualités, il a le droit de les montrer, même si son entraîneur est une quiche. Il a eu du temps de jeu.
Romain est là et est avec nos supporters nantais. Salut Romain.
Salut.
Qu'est-ce que tu penses de ce début de saison nantais, de ce début d'intersaison, pardon? Certes, passionnant parce que tu as remplacé Conceição par Ranieri, tu peux dire que ça va être intéressant, mais on voit pas venir grand-chose en termes de recrues.
Bah, c'est le FC Nantes, quoi. On a un président qui pense depuis 10 ans qu'il peut être directeur sportif, responsable du recrutement, entraîneur, président, animateur, mais non, mais c'est vrai. Ça fait 10 ans qu'on
a agrandisseur de Zizi. Non, parce qu'on fait fortune dans
François Fulgini, il paraît.
Oui, super. Mais le mec a rien compris au foot, quoi. C'est ton papa en Benjamin qui gueule sur l'arbitre.
C'est
toujours la même chose. Le mec, en 10 ans, il a pris un entraîneur sur 10 qui était fort, c'était Conceição. Super. Mais merci pour nous, Je suis ravi, Je suis supporter du FC Nantes depuis que j'ai 5 ans. Ça fait 23 ans que je fais ça. J'ai une histoire derrière moi. Il y a un club génial. On a des supporters géniaux. Il y a 35 000 personnes qui se bougent à la Beaujoire quand il faut. Mais putain, on a une pipe comme président, quoi.
Non, et on va surveiller son langage quand même. Écoute,
j'en ai marre. Ça fait
non, mais je comprends ton exaspération. Je comprends ton agacement. Mais
super.
Tu peux pas dire que le fait, notamment, d'avoir osé, parce qu'il fallait dire, c'était osé prendre Conceição l'année dernière, et cette année avoir réussi de remettre une partie de l'entité nantaise dans le bon chemin en prenant Ranieri, tu peux pas non plus dire que le travail est totalement mal fait. En revanche, de dire que le travail est pour l'instant incomplet, ça on peut le dire, mais les mots sont un peu forts, je trouve.
Les mots sont forts, ça fait juste.
T'es un supporter, je le comprends.
C'est l'exaspération. Après, tant mieux, il a changé. On arrête avec le coach de Ligue 1 classique. Bon, on a eu Conceição, ça a bien marché. On a Ranieri, on est entre de bonnes mains. A priori, les clés du recrutement sont dans les mains de Balzaretti. Pourquoi pas? Moi je veux voir. Maintenant, je veux voir un petit peu ce qui vient.
Le fameux Balzaretti, c'est le fameux ancien joueur italien qui aide Ranieri.
Ouais.
Voilà, qui parle français parce que sa femme était danseuse à l'Opéra de Paris. Donc il connaît à peu près, qui a priori connaît à peu près le marché français.
Oui.
Moi je veux juste voir. J'ai plein d'espoir. A priori, l'équipe elle est bien. En tout cas, pour faire ventre mou de Ligue 1, on a besoin un petit peu de
Conceição, il a tiré le meilleur de l'équipe, et si tu ne renforces pas l'équipe, et tu perds Aric,
évidemment,
tu ne feras pas de miracle. Ranieri ne fera pas de miracle tout seul, c'est pas lui. C'est pas lui qui va.
On est sur le calendrier, on est le 17 juillet. Quand on sera le 17 août, on pourra déjà un peu plus.
Romain, est-ce que tu as quelque chose?
Il nous manque un gardien, il nous manque un défenseur central, il nous manque au moins
un. Oui, il nous manque un défenseur central, puisque si c'est ton président, il a eu la brillante idée de se séparer de Viscarondo. Ça, là-dessus,
Viscarondo, il était fou.
Didi, c'est pas au niveau, et c'est pas en recrutant Palois qu'on va aller bien loin. Quoi.
Ils ont fait deux propositions pour Palois qui ont été refusées pour l'instant.
Palois,
déjà, tu dois trouver un joueur déjà pour remplacer le Palois pendant les 10 matchs qui va manquer pour cause de suspension,
énervement, agacement.
Bon, Romain, merci en tout cas. Oui, vas-y, tu voulais ajouter un dernier mot?
Non, mais voilà, on a un bon coach, on a un bon centre de formation, on a un club avec des supporters. Si quelqu'un m'entend et veut racheter le FC Nantes, venez, venez. Faut arrêter de faire la danseuse de Kita et ayons un vrai investisseur.
C'est dur ce que tu dis. C'est dur sur Kita ce que tu dis. Moi, je pense qu'il y a une chose qui pourrait permettre au FC Nantes de progresser, c'est que Monsieur Kita soit un peu moins à l'écoute de toutes les bouches qui tournent autour de lui. Je pense que c'est le problème du club. Il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de la présidence, autour des instances dirigeantes. Il y a beaucoup de gens qui donnent un avis parfois discordant, et je pense que il est quand même dans l'optique de bien faire les choses. Ça s'est vu avec les deux coachs qu'il a pris là, et voilà, enfin vraiment, quand j'entends les gens dire que c'est une pipe et tout, je trouve ça quand même un peu dur.
Il a dit c'est une pipe. D'ailleurs, Maxime Lherbat dit j'hallucine quand j'entends le vocabulaire de certains supporters. C'est quand Ranieri est arrivé. Ranieri ne dit pas Pacito, ça va être complètement différent. À voir s'il va pouvoir tirer le meilleur de chaque joueur comme Sergio Conte.
Tu le conseilles alors, Kita?
Non.
Non, tu le conseilles pas, tu lui donnes pas des pistes, tout ça? Parce que sinon, ouais, il faut qu'il arrête d'écouter les gens qui parlent autour de lui.
Tiens, Clément est
tu
avec nous.
Tu conseilles sur les sextoys, non?
C'est... Pourquoi donc?
C'est toi qui l'as essayé.
C'est toi qui l'as levé sur des pénis.
C'est pas des sextoys. C'est des agressions de pénis.
C'est des?
Ah, c'est
des,
tu connais bien.
Il connaît bien.
La vieille vanne. Toi, tu connais bien.
On essaie de refiler la patate sur des pénis.
Non, c'est pas celui qui est.
La circoncision, c'est ton problème.
C'est ton truc, mais oui.
C'est ton truc.
C'est pas un problème,
c'est pour raccourcir, d'ailleurs, la circoncision. Clément d'Antibes est avec, non, pardon, Clément de Nantes est avec.
Oh là 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 là.
Salut Clément. Non, mais.
Clément d'Antibes.
Tu as ton coq avec toi, Clément?
Non, j'ai mon chat, si vous voulez.
Ah, d'accord.
Tiens,
on va faire un petit salut à ton chat. Ouais.
Comment il s'appelle?
On est en direct de Villa, les acheteurs de l'été. Clément, un mot sur Nantes et sur ce qu'on a dit. D'ailleurs, est-ce que tu as trouvé ton copain supporter trop dur vis-à-vis de Kita?
Non, plutôt très lucide. Disons que moi, j'ai une théorie avec Kita, c'est que quand Kita gère tout et que ça va mal... on le voit plus, et dès qu'il délègue, que les choses reviennent dans le bon sens, et les résultats repartent dans le bon sens, Kita revient, se remet sur le devant de la scène, et ça revient mal, et en fait, c'est un cycle infernal depuis 10 ans. Donc voilà, même si, bon, comme disait l'auditeur précédent, on a Ranieri, c'est bien. Moi, personnellement, j'en attends pas de miracle. Je pense qu'il va stabiliser le club dans la première partie de tableau. Voilà. Après, on a un club qui est pas du tout structuré par rapport aux ambitions affichées par le président.
Mmh. Et c'est quoi les ambitions affichées alors par ton président?
De faire mieux que la 7e place?
Il a laissé sous-entendre quand même qu'il aspirait à jouer l'Europe assez rapidement.
Top 7, top 8, il a dit, ouais. Ça me semble être un peu compliqué.
Tu dis faire mieux que l'an dernier, c'est-à-dire faire mieux que 7e, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas facile de faire mieux que 7e avec la Ligue 1.
C'est compliqué. Ça va être dans ton avis, on va voir qu'il y a quand même de la concurrence. Mais là, quand on regarde l'effectif.
Clément, tiens, juste, Johan nous dit, en pointant du doigt Harit, on va pas regretter Harit, on ne perd pas grand-chose sur le terrain, et on s'enrichit 10 millions, il est bon, mais il n'a pas un gros QI foot. C'est ton avis aussi, Clément?
Harit, c'est encore un diamant brut, quoi. Techniquement, c'est fort, c'est les joueurs de nouvelle génération, ça fait du geste technique. Mais bon, après, c'est pas encore un produit fini, au niveau de la vision du jeu, de la prise de décision. Donc je pense que ça, c'est aussi un cas qui aurait été mal géré. Là, on vend 10 millions. Si jamais le joueur arrive à le bichonner, éventuellement à le prolonger, à lui donner une revalorisation pour flatter son ego, tu peux le vendre le double si jamais il arrive à percer cette saison. Après, ces joueurs-là, c'est toujours des paris plus ou moins sur l'inconnu. Mais bon, moi, je voudrais revenir aussi sur le manque de structuration au niveau de la file de recrutement. C'est un club qui n'anticipe rien. On est tout le temps sur tenter des coups. Donc toujours pour revenir à notre cher président, il lui faut du clinquant. Il a annoncé il n'y a pas si longtemps que ça qu'il se penchait sur des William vainqueurs, que Ben Arfa ça l'intéressait. Mais où on va? Pour moi, il a déjà tout mis sur le coach. Donc j'ai même l'impression qu'il saborde certaines de ses recrues pour après mettre ça sur le dos des joueurs. L'exemple, c'est avec Vertoux, ils ont contacté Vertoux, il aurait pu être intéressé pour revenir. Le joueur demande un délai de réflexion, c'est normal, il a 23 ans, il a un moment charnière de sa carrière. Il a des offres aussi. Sous prétexte que c'est Ranieri le coach, il aurait dû dire oui tout de suite. Le lendemain, il y a Kita qui l'insulte dans la presse. Et qui met ça sur le dos du joueur en disant que depuis qu'il a Aston Villa, qu'il a un gros salaire, il a plus faim, qu'il préfère retourner jouer avec son club de Ligue 2. Alors moi je comprends Mendy quand il dit qu'il veut pas mettre un pied à Nantes, quoi. Il y a un côté de mise en avant de ce président, comme vous disiez tout à l'heure, qui veut tout faire.
Et c'est un peu sous-poil.
Et voilà, le fait c'est que il y a plein de choses qui rentrent en compte, comme le fait de dire qu'il a écouté beaucoup de personnes. Je pense qu'à une époque, il a écouté beaucoup de personnes et qu'il a été très mal conseillé. Mais le problème, c'est que maintenant, justement, il fait les choses à sa sauce et on voit comment ça,
c'est pas gagné. Merci Clément d'avoir été avec nous ce soir pour parler de Nantes. On reparlera de Nantes, bien sûr. On attend quelques recrues quand même du côté nantais pour que ça aille un peu mieux.
C'est inquiétant, hein.
Bah, c'est inquiétant.
La manière dont c'est organisé, c'est inquiétant.
Mais on s'aperçoit tout simplement que si beaucoup de clubs se structurent, ceux qui ne le sont pas vont être encore plus pénalisés dans le marché des transferts. Donc Nantes est un peu dans ce cas-là aujourd'hui.
On voit que prendre un grand entraîneur, ça ne suffit pas.
Ah, bien sûr. Là,
ça, on l'avait dit. Hein,
Je dirais même que ceux qui font dans l'ordre, comme Lille ou Marseille même, c'est-à-dire investisseur, directeur sportif, enfin entraîneur, directeur sportif, même, je dirais même président, entraîneur, directeur sportif, et après qui commence à recruter, ça paraît plus logique. On va faire un petit point sur le match France-Islande avec Arnaud Souk. Arnaud, toujours 0-0. On a repris, on est en deuxième mi-temps.
Ouais, 50 minutes de jeu entre les Françaises et les Islandaises. On a encore vu les Françaises dangereuses hein, sur coup de pied arrêté, mais seulement sur coup de pied arrêté. Elles ne parviennent toujours pas à faire vaciller ces Islandaises. Elles partent pourtant grandes favorites quand on regarde un petit peu les classements des deux équipes, classement mondial tout simplement. La France 3e nation mondiale, l'Islande 19e nation mondiale. La dernière fois qu'elles se sont rencontrées, ça avait fait 7-3 en faveur des Françaises. Autant dire qu'a priori, elles partent favorites. Mais les Islandaises, je te disais tout à l'heure, Flo, elles répondent bien aux défis physiques imposés par les Françaises. Elles les surpassent même parfois un petit peu. Et voilà, ça empêche les Françaises de véritablement être créatives dans le jeu. Il faut s'en mettre à ses coups de pied arrêtés. Pour l'instant, elles ne parviennent pas à trouver la faille. Il restera donc 39 minutes à jouer dans cette rencontre, toujours 0-0.
C'est vrai que c'est un peu inquiétant cette propension à être dangereux uniquement sur coup de pied arrêté. Là, y a pas dans le jeu, il n'y a rien.
Bon, après, tu peux faire le parallèle aussi avec ce qu'on avait vu avec l'équipe de France masculine l'année dernière, dont on attendait beaucoup dans le jeu et qui sur les premiers matchs avait eu peut-être un petit peu du mal à se mettre en route et qui heureusement elle avait trouvé dans son effectif un certain Dimitri Payet qui avait bien aidé tout le monde.
Très bien. Et puis on rappelle, puisqu'on parlait des matchs de préparation, on va parler dans la deuxième heure de l'after de l'OL qui joue contre l'Ajax hein, ce soir. C'est intéressant à plus d'un titre évidemment pour parler de l'Olympique Lyonnais mais aussi du futur adversaire de Nice. Alors que là il y a une grosse focasse pour les Français mais encore une fois
gros boulot de Wendy Renard en milieu de terrain pour remonter le ballon. Elle s'est mise en pole Pogba là, Wendy Renard et ça aurait pu faire mouche.
Et c'est incroyable d'ailleurs l'influence qu'elle a et elle peut se permettre de faire le surnom comme ça à ce point. Elle est au début et à la fin presque à la fin de l'occasion qui n'en est pas vraiment une.
C'est elle la plus dangereuse hein. Même sur les coups de pied arrêtés, c'est elle qui à chaque fois vient semer
une défenseur central qui est la joueuse, ta joueuse la plus dangereuse.
Exactement.
Si t'as pas des problèmes dans ce match.
On va parler d'OL Ajax dans la deuxième heure de l'affaire et sachez que l'OM a gagné contre le Sporting du Portugal. C'était à Vaux 2-1. Il y a deux buts.
Clinton Engie
qui a mis les deux buts.
C'est pas mal. Hein.
Il est en feu. Et la deuxième info, c'est qu'il y a eu péno pour le Sporting avec une faute d'Adil Rami qui conteste d'ailleurs. C'est normal, il est défenseur central.
Ouais.
J'ai pas dit qu'il avait fait faute parce qu'il était lent. Hein. Il a fait faute et il a gentiment dit à l'arbitre qu'il s'était fait abuser par l'attaquant, mais voilà. 2-1 en tout cas pour l'OM. Juste, je vous rappelle juste les petites infos mercato que nous donnait Saber Desfarge tout à l'heure. Les deux officialisations du côté de Montpellier, Pedro Mendes et Giovanni Sio, les deux joueurs qui viennent de Rennes, iront donc jouer dans l'Hérault. Et puis Cahuzac, de plus en plus proche de Toulouse, c'est Pascal Duprat lui-même, l'entraîneur de Toulouse, qui l'a annoncé cet après-midi en conférence de presse. Quant aux infos sur Neymar au PSG, vous les avez entendues dans la bouche de Saber Desfarge tout à l'heure. Il y a certes un intérêt du PSG, mais pour l'instant, rien de plus, des discussions, rien de plus concret. L'after revient dans quelques instants. On va justement parler de l'équipe de France féminine. Ce sera mon avis tranché, justement pour dire qu'on est bien content d'avoir des Françaises qui gagnent les matchs amicaux, mais on voudrait qu'elles gagnent des titres. Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC, l'after fait.